marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Malgré notre vigilance, M. Victor Hugo nous a échappé.
Les exils de Victor Hugo.
Cette statue représente Victor Hugo. Elle a été offerte par le gouvernement français aux gens de Guernesey. Et c'est pour cela qu'elle porte aussi sur son socle une dédicace, celle que Victor Hugo lui-même avait rédigée en introduction au roman des Travailleurs de la mer. Celle-ci dit « Au rocher d'hospitalité et de liberté, à ce coin de vieille terre normande où vit le noble petit peuple de la mer, à l'île de Guernesey, sévère et douce. » Ensuite, on lit « Don de la France à l'Angleterre, à l'île de Guernesey. »
Bruxelles, brièvement après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 51, Jersey, jusqu'à l'expulsion par les autorités locales en 1855, Guernesey enfin, des trois exils. Hugo va privilégier Guernesey sur les rocs, témoins de ma gloire. J'écrirai mon nom et mon sort et je serai sûr qu'à ma mort, les rocs garderont ma mémoire. La petite île lui sera d'ailleurs très reconnaissante, non contente d'accueillir une statue inaugurée à la veille de la Grande Guerre. Elle a balisé pour les temps de paix les sentiers qu'empruntait le grand homme pour rejoindre les falaises et se tenir au bord de l'infini. Baudelaire lui écrivait « Vous habitez une demeure haute et poétique et qui ressemble à votre esprit et où vous vous sentez heureux dans le fracas du vent et de l'eau ». Peu après son arrivée, Hugo avait en effet acheté Outville House, qu'il aménagea à sa façon, chinant avec Juliette Drouet les objets hétéroclites que le commerce interlope de l'île y avait déposés. On peut distinguer trois exils différents, donc, selon les lieux, mais la césure la plus importante est peut-être à situer en 1859. Napoléon III a alors accordé son amnistie et Hugo n'en veut pas. Les membres de sa famille, peu à peu, seront happés par la liberté de voyager retrouvée. Hugo reste quasi seul, enfin avec Juliette, dans sa demeure voisine plus petite. À Guernesey, il organise la mémoire de son aventure, de son vivant. Guernesey devient l'exil volontaire. Il a quitté ses vêtements d'autrefois. Il laisse pousser une barbe de patriarche. Il est devenu un prêtre, un apôtre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Retour au moment de départ. Ancien pair de France de la monarchie constitutionnelle, député depuis 1848, Victor Hugo pouvait difficilement passer pour un républicain de la veille. À la première présidentielle au suffrage universel, en décembre 1848, il avait même soutenu la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Puis, son évolution s'était accélérée. Et depuis la nuit du coup d'État, il s'est réveillé pour ne plus jamais s'endormir.
2 décembre 1851. Tous les journaux supprimés. Toutes les imprimeries supprimées militairement. Du côté de Bonaparte, une armée de 80 000 hommes qui pouvait être doublée en quelques heures. De notre côté, rien. Le peuple trompé et le peuple désarmé. Toutes les murailles couvertes de leurs affiches. Et pour nous, pas une casse d'imprimerie, pas un carré de papier. Ade, libraire boulevard Poissonnière numéro 17, est sur sa porte. On le tue. Au même moment, car le meurtre est vaste, fort loin de là, rue de Lancrie, le propriétaire de la maison numéro 5, monsieur Thirion de Montauban, est sur sa porte. On le tue. Rue Tickton, un enfant de 7 ans, nommé Boursier Passe. On le tue. Je vais rue page 20. Il y a là, à l'angle de la place des Victoires, une barricade très bien faite. Dans la barricade d'à côté, rue Jean-Jacques Rousseau, la troupe ce matin n'a pas fait de prisonniers. Les soldats ont tout tué. Il y a des cadavres, jusque sur la place des Victoires. Ils ont réussi. Louis Bonaparte tient la France.
La voix de Jacques Fornier dans un film d'Henri Colomer. Victor Hugo s'est échappé le 12 décembre 1851. Il retrouve à Bruxelles des amis et des relations qui y étaient parvenus sous les déguisements les plus divers. Scholler, l'homme de l'abolition de l'esclavage, l'athée, s'était costumé en prêtre. Quinet, le professeur au Collège de France, en prince valaque, incapable de parler français. Hugo retrouve une ville qu'il connaît et qui le reconnaît. Le bourgmestre lui fait faire le tour de la grande place qu'il a si bien décrite déjà en 1837.
L'hôtel de ville de Bruxelles est un bijou, comparable à la flèche de Chartres. Une éblouissante fantaisie de poète tombée de la tête d'un architecte. Et puis, la place qui l'entoure est une merveille. À part trois ou quatre maisons que de modernes cuistres ont fait dénaturer, il n'y a pas là une façade qui ne soit une date, un costume, une strophe, un chef-d'œuvre. J'aurais voulu les dessiner, toutes. Je suis monté sur les clochers de Sainte-Gudule, c'était beau. Toute la ville sous mes pieds, les toits tailladés et voluttés de Bruxelles à demi estompés par les fumées, le ciel, un ciel orageux, plein de nuages dorés et frisés par le haut, coupé ras comme un marbre par le bas. Au fond, une grosse nuée lointaine d'où tombait la pluie comme du sable fin d'un sac qui se crève. Le soleil jouant dans tout cela, la magnifique lanterne à jour du beffroi, se détachant sombre sur les vapeurs blanches. Et puis le bruit confus de la ville qui montait, et puis la verdure des belles collines de l'horizon, c'était vraiment beau. J'ai tout admiré comme un provincial de Paris que je suis. Tout.
Hubert Thébault. Ces grandes places que Hugo emménage dans une pièce de belles dimensions mais qui manque de feu. Son épouse, Adèle, est restée à Paris. Elle aide à transférer des fonds vers la Banque Nationale de Belgique et organise la vente des meubles de l'appartement de Paris. Elle retrouve d'ailleurs dans les tiroirs des correspondances échangées par son mari avec Juliette Drouet. Juliette, qui est déjà à Bruxelles. Hugo reconstitue ses habitudes familiales. Accueillant aussi, grand place, Charles, le fils aîné, infatigable nonchalant. Et tandis que son père se remet au travail, rédigeant dardard l'histoire immédiate du coup d'État de Napoléon le Petit, Charles se promène en ville. Ils sont peut-être 7000 fugitifs, mais peu pourront s'établir durablement en Belgique. Le gouvernement libéral à Bruxelles, dont la majorité parlementaire ne tient qu'à un fil, est d'ailleurs assez embarrassé par l'écrivain vengeur.
J'ai appris mon bannissement de France et on me dit que le Bonaparte veut me faire enlever. Mais je suis encore protégé, j'ai reçu un permis de séjour de 3 mois. Mais la Belgique a-t-elle 3 mois devant elle? Question. La France laisse planer l'imminence d'une annexion.
Monsieur l'ambassadeur, Charles Hugo, récemment libéré, vient de rejoindre son père et les réfugiés. Les démagogues, fustiges et caricatures, Sa Majesté le Prince Président, qui vient de décider de faire supprimer la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » sur tous les édifices de France. Nous surveillons leur réunion.
Il commence alors la rédaction du pamphlet « Napoléon le Petit ».
Je le montrerai tel qu'il est. Infâme, opulent, souillé, cet Élysée, cette cour, ce tas, appelez cela comme vous voudrez, cette chiourme où rampe et grouille et s'accouple et se féconde toutes les turpitudes. Que Louis Bonaparte sache qu'on prend un empire, mais qu'on ne prend pas une conscience.
Monsieur le ministre, l'infâme pamphlet Napoléon le Petit est à la veille d'être terminé. Donnez des ordres à toutes les frontières pour empêcher son introduction en France. Les exemplaires sont de très petite taille.
Dans un téléfilm d'Alex Clévenot, reconstitution d'un dialogue à distance entre les autorités belges françaises et l'auteur de Napoléon le Petit. Un texte qui commence par la description du crime du locataire de l'Élysée et dont la chute de l'imposteur doit constituer la fin inévitable sous les coups de l'avancée du progrès. Mais en attendant que la prophétie se réalise, il faut vivre les tribulations du temps. Le gouvernement belge presse Hugo de choisir un autre exil. Et juste après avoir corrigé en catastrophe les épreuves de Napoléon le Petit, il participe à un dîner d'adieu offert par les autres proscrits, Alexandre Dumas, Arago, Agricole Perdiguier, et il embarque à Anvers au cri de « Vive Hugo, vive la République !»
Je vous informe que M. Victor Hugo, accompagné d'une femme et de l'un de ses fils, quitte aujourd'hui la Belgique par le port d'Anvers.
Frères proscrits, je souffre de vous quitter, mais la République n'est pas morte. Un mot à vous, amis belges, vous qui blâmez les faiblesses de votre gouvernement, si Bonaparte vous envahit, s'il vient une nuit, c'est son heure. Levez-vous, belges, recevez Bonaparte comme vos aïeux ont reçu Caligula, frappez. Empruntez à Waterloo son cri funèbre, la Belgique meurt mais ne se rend pas. Face aux tyrans, levez haut les nationalités. Vive la République universelle, vive la patrie universelle.
août 1852. Jersey est depuis longtemps une terre d'asile. La mémoire de l'exil protestant du XVIIe siècle y est encore vive. Port de Saint-Hélier. Sur le quai, sa femme, sa fille Adèle et des réfugiés de différents pays d'Europe.
Citoyens, je vous remercie de votre fraternelle bienvenue. J'ai quitté la France sur le quai d'Anvers. Je la retrouve sur la jetée de Saint-Hélier.
1852, donc, deuxième exil à Jersey. Adèle l'épouse, Adèle la fille, attendent le maître. Hugo a promis à sa femme qu'il partagerait leur temps entre un cottage dans l'île et Londres. Mais il n'a nullement l'intention d'aller dans la capitale anglaise. Trop d'anglais, sans doute. Les mille proximités de la France que lui suggère Jersey lui conviennent beaucoup mieux. Par le sud, Normandie, et par le nord, Bretagne, elle est pour nous la France, et dans son lit de fleurs, elle en a le sourire et quelquefois les fleurs.
Je t'aime, exil. Douleur, je t'aime. Tristesse, sois mon diadème. J'aime cette île solitaire, Jersey, que la libre Angleterre couvre de son vieux pavillon, l'eau noire par moments accrue, le navire errante charrue, le flot mystérieux sillon. J'aime ta mouette, ô mer profonde, qui secoue en perles ton onde sur son aile aux fauves couleurs, plonge dans les lames géantes et sort de ses gueules béantes comme l'âme sort des douleurs. J'aime la roche solennelle, d'où j'entends la plainte éternelle, sans trêve comme le remords, toujours renaissant dans les ombres, des vagues sur les écueils sombres, des mères sur leurs enfants morts.
Le poète retrouve la nature qu'il a tant chantée. Il découvre l'île à travers de longues marches. Sur le rocher des proscrits, il regarde au loin l'horizon de l'avenir.
S'il y avait de beaux exils, Jersey serait un exil charmant. C'est le sauvage et le riant marié au beau milieu de la mer dans un lit de verdure de 8 lieues carrées. Jersey rit, terre libre, au sein des sombres mers. On voit à l'horizon la France comme un nuage et l'avenir comme un rêve.
La petite tribu s'établit à Marine Terrasse, au seuil de Saint-Hélier, une maison médiocre, ou considéré comme tel par les Jersiais, qui ne lui montreront pas beaucoup d'égards. Cependant, elle voit la mer sans voir la ville, et Juliette s'établit non loin. Victor Hugo participe aux réunions des proscrits, il écrit les contemplations, le soir il lit à son cercle ce qu'il vient de composer. Une innovation l'intéresse beaucoup, la photographie, et une autre le passionne, le spiritisme. Dans la famille, le seul à douter de la réalité du commerce avec l'ailleurs que permettent les tables parlantes, c'est François-Victor, l'un des fils. Victor Hugo, le père, le raille et il l'appelle monsieur 19e siècle.
S.B. Le pied frappa.
Oui.
Continue. La table frappa successivement.
O.M.A.P.
Un frémissement nous gagnait. Elle acheva.
A. R.T.E.
Nous ne fîmes qu'un cri. Bonaparte ! Ma femme a couru, bouleversée et joignant les mains.
Est-ce Bonaparte ? Le pied frappe, oui, avec une sorte de fureur. Lequel ? Le grand ?
Non.
Le petit ?
Oui.
Nous avions tous des frissons. J'insistais. Quoi ? C'est toi qu'on appelle Napoléon III qui est là ? Un coup plus irrité encore.
Oui.
C'est ainsi que Jersey se tient au bord de l'infini. Mais l'île, bailliage à l'autonomie fragile, se tient aussi sous la couronne de la reine Victoria. Hugo, poussé par les proscrits, auxquels s'abouchent quelques démocrates anglais, ne peut s'empêcher de se mêler des affaires locales. Il se jure ainsi d'arracher à la pendaison un sujet de Guernesey voisine, un assassin de 30 ans, Tapner, qui avait tué une femme, l'avait volée, avait mis le feu à sa maison, espérant que le premier forfait s'en irait dans la fumée du second. Les autorités locales, comme nombre d'habitants, ne partagent pas nécessairement ce point de vue. D'autant qu'à Londres, on leur désigne du doigt Hugo comme un homme à continuer de surveiller.
L'empereur annonce sa visite à la reine Victoria. Une visite assortie de fêtes, de galas, de concerts et de revues. Victor Hugo ressent comme une injure cette fastueuse croisière. Il dénonce Napoléon le Petit et se solidarise avec les affiches menaçantes des exils.
Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Qui venez-vous insulter ? L'Angleterre dans son peuple ? La France dans ses proscrits ? Laissez la liberté en paix, laissez l'exil tranquille.
Et un matin d'été, tandis qu'il s'affaire à son jardin marin, où il alterne la culture des fèves et la taille des rosiers, il voit s'avancer le connétable de Saint-Clément, qui vient lui signifier son expulsion.
Monsieur Victor Hugo, the governor of Jersey proclaims you have no authority to remain in the island. He demands that you and your family leave within 8 days.
Monsieur le connétable, si l'Angleterre veut me parler, qu'elle apprenne ma langue.
Être en exil à Guernesey.
Les exils de Victor Hugo, le troisième, 1855, Guernesey. Heureusement, une antique rivalité oppose Jersey à sa petite voisine. Et Guernesey a la réputation de tout faire à l'inverse de la plus grande île. Guernesey accueille donc les Hugo et Juliette Drouet, évidemment. Agnès Perry, une Française, installée elle aussi dans l'île, et depuis une trentaine d'années, raconte les premiers pas de l'écrivain.
Quand Victor Hugo se trouvait à Jersey, il avait appris qu'un certain monsieur Tapner était condamné à mort. Et étant formellement opposé à la peine de mort, il s'est vraiment impliqué dans une campagne pour essayer de sauver ce monsieur de la pendaison. Ça n'a pas eu l'effet voulu, malheureusement, mais il a vraiment mis tout en œuvre. Il a engagé une pétition, il a écrit une lettre aux gens de Guernesey et aussi aux autorités, mais ça n'a pas pu le gracier. Dès que Victor Hugo est arrivé sur l'île en 1855, l'une de ses premières démarches, ça a été de venir sur place, dans cette prison où Tapner avait passé ses derniers jours. Il voulait vraiment se rendre compte des conditions d'incarcération ici et savoir réellement comment les prisonniers étaient traités. Et il a été agréablement surpris parce qu'il avait donc pris rendez-vous avec le geôlier qui s'appelait Jean Goubet. Et ce geôlier était pleine d'attention envers ses prisonniers. À cette époque-là, donc, il n'y avait que 3 prisonniers dans la prison. La prison pouvait en recevoir 16, il y avait 16 cellules en tout. Et il a aussi appris que s'il y avait des prisonniers le jour de Noël, eh bien le geôlier préparait un petit banquet spécial pour Noël, pour les prisonniers qui se trouvaient là, et que le geôlier payait pour ce repas spécial, très amélioré, de ses propres deniers.
À Guernesey, Hugo trouvera toutes les grâces qu'il refuse à Jersey. Il s'installe à Haute-Villaus, Juliette est à 2 pas. Les Contemplations qui paraissent en 1856 connaissant un grand succès, il achète la maison et décide de l'aménager à sa manière. Après de grands travaux de restauration, les visiteurs peuvent de nouveau y pénétrer au rythme de 220 par jour. Et parmi les premiers privilégiés, Franck Olivard, en compagnie de l'heureux conservateur des lieux, Gérard Audinet. On commence par le point le plus haut.
Là, c'est le look-out de la chambre, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'avancée avec plusieurs fenêtres qui donnent sur Mont-Georges en face. On est presque dans une cabine de capitaine de navire. Il faut même imaginer la chambre de Victor Hugo encore plus vite qu'elle n'est. Il y avait juste ce lit donc, qui est au fond de la pièce, avec un miroir au-dessus. C'est un lit qu'il fallait installer le soir, un lit qui se rabat. On l'imagine se réveillant dans son lit. Il est un peu avant 5h du matin. Il se lève, il s'habille. On peut imaginer qu'il va vers la fenêtre pour voir le temps qu'il fait. Regarder le jardin qu'il aime beaucoup, voir s'il y a des oiseaux qui se baignent dans la fontaine. Peut-être jeter un œil du côté des 3 fenêtres à la française qu'on aperçoit un peu à droite, qui est la chambre de Juliette à la Falue. En tout cas jusqu'en 1864, quand Juliette va déménager de l'autre côté, plutôt en bas. Regardez sans doute, en tout cas je me plais à imaginer cela, qu'il regarde vers le levant, entre Sarc et Herm. Par beau temps, on aperçoit le Cotentin, la côte de France, parce que Victor Hugo reste dans l'exil très attaché à sa patrie. Victor Hugo a un côté un peu cocardier, patriote, mais très attaché à la France. Alors, donc à partir de 1962, Victor Hugo, donc le matin, après avoir gobé ses œufs crus et bu son café froid, va venir là. Il va sans doute faire ce que je vais faire à sa place. Il va soulever cette petite tablette, voilà, qu'il va tirer, tablette noire. Voilà. Et puis là, il est, voilà, il peut écrire. Il écrit en regardant la mer. On va pas briser le mythe, donc on va dire que Victor Hugo écrivait bien debout sur les tablettes. En plus, il y en a 2. On a les tablettes à gauche et à droite du look-out. Là, on a une 2e tablette. On va dire que midi, l'Angélus sonne dans les clochers de Saint-Peter-de-Port. Donc, on va replier notre tablette. Et puis, on va descendre, prendre notre déjeuner. On va descendre du 3e étage où nous sommes jusqu'au rez-de-chaussée.
La salle à manger va réunir la maisonnée, les travaux de restauration qui viennent d'être conduits. Est-ce que j'ai dit que c'était aussi grâce au mécénat particulier de Pinault Collection, par la ville de Paris, utilise quelques 10 croquis préparatoires de Hugo qui ont été conservés et qui concernent cette pièce. C'est une pièce pour le moins haute en couleur, avec à une place centrale une Vierge à l'enfant, bleu et or, en vieux Rouen, offerte par Juliette, et rebaptisée Statue de la Liberté dans ce grand effort de dépassement du christianisme qui a toujours animé le maître.
Donc le repas familial, au moment où la famille est encore là, est un moment très important. On a des descriptions de repas familial, notamment dans le livre de Charles. C'est le moment où on ouvre le courrier, donc on reçoit les nouvelles de France, on reçoit les journaux, on reçoit les journaux français, les journaux anglais. Donc c'est François Victor qui va traduire, qui parle bien l'anglais, qui va traduire les nouvelles d'Angleterre. Et voilà, et on discute. Alors, parce que là, la pièce y invite, parce que cette salle à manger est extraordinairement spectaculaire. Alors là, Victor Hugo a chargé la symbolique, parce que c'est la pièce des repas, donc la pièce où on entretient la vie. Et l'entretien de la vie, c'est quand même chez Victor Hugo toujours sur le rythme de l'enchaînement de la vie et de la mort, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on trouve ici, bizarrement, un siège un peu en retrait de la table, assez curieux, qui est une espèce de cathèdre de bois sculpté et peint avec un toit. Alors c'est amusant parce qu'il y a des ogives dans le toit et qui sont décorées avec des reposes fer à repasser, alors que ce siège, c'est la cella patrum defunctorum, le siège des ancêtres morts, qui est fermé par une chaîne de métal, une grosse chaîne de fer, parce que il est réservé aux défunts. Absentes ad sunt, les absents sont présents. Et d'un côté, on évoque Georges, 1534, ancêtre mythique fondateur des Hugo de Lorraine dont Victor Hugo prétendait descendre. Et de l'autre côté, Léopold Sigisbert, le père de Victor Hugo, une date 1828, la mort de son père. Alors, on trouve souvent ce rapport entre le mystère de la vie et de la mort et la politique à travers l'évocation de la misère. Je pense à un poème comme « Chose vue un jour de printemps » dans les Contemplations. Et surtout, alors quelque chose qui va être écrit, je pense, après l'aménagement de la salle à manger, qui est un chapitre des Misérables, qui dans la suite des chapitres suit la mort de Gavroche. Et donc il y a cette scène, ces deux enfants se retrouvent face à un bourgeois et son fils qui viennent donner à manger au cygne du bassin. Et le petit garçon riche, au lieu de donner sa brioche aux deux enfants pauvres, qui représentent la chienlit, jette sa brioche dans le bassin. Et à grand-peine, quand les bourgeois sont partis, le plus grand des deux frères arrive à rattraper la brioche et va refaire ce qu'il a vu faire à Gavroche. C'est-à-dire qu'il a coupé la brioche, il rompt le pain, quelque sorte. Il donne le plus gros bout à son petit frère, il garde le plus petit pour lui et il dit à son frère, colle-toi ça dans le fusil. Et c'est là où je pleure à chaudes larmes à chaque fois, parce que Victor Hugo arrive à nous faire pleurer avec une phrase d'argot, mais c'est comme ça, parce que c'est le geste de l'Eucharistie, bien sûr, et c'est en même temps la résurrection, propre de l'Eucharistie, là c'est la résurrection de Gavroche, puisqu'il au moment où Gavroche est en train d'être tué à la barricade, il revit dans le geste de son frère inconnu et dans l'utilisation de cette formule d'argot.
« Colle-toi dans le fusil », répète Gérard Rodinet. En 1859, Napoléon III accorde l'amnistie aux condamnés, aux exilés du coup d'État. Hugo refuse de rentrer. Les uns et les autres vont s'éloigner et le laisser quasi seul à partir de 1865 à Hauteville House, mais dès 1860, il avait tiré de sa malle au manuscrit la première version des Misérables, abandonnée depuis longtemps. Et quand il décidera du lancement urbi et orbi de ce livre, il se rendra à Bruxelles. Il retrouvera Bruxelles un petit peu plus tard, quand enfin l'Empire sera tombé.
Nous sommes ici dans la rue commerciale qui s'appelle High Street à Saint-Pétersbourg, devant la vieille banque, The Old Bank. Et c'est à cet endroit-là que Victor Hugo a loué un coffre-fort en 1870, au moment où il s'apprêtait à retourner en France. Donc il a loué un coffre-fort ici pour y conserver quelques objets précieux et quelques manuscrits. Il a confié le code à son fils pour que son fils puisse veiller sur eux. Mais quand Victor Hugo a quitté Guernesey, il a gardé sa maison ici. Donc il avait l'intention d'y revenir et il y est revenu plusieurs fois pour travailler, pour s'éloigner de la vie trépidante parisienne. Et il trouvait que c'était beaucoup plus productif de revenir à Guernesey, travailler quelques semaines ou quelques mois, et qu'on accomplissait beaucoup plus de choses qu'en étant à Paris, puisqu'il devait être très très sollicité.
Il reviendra trois fois, la dernière fois en 1878, et si vous voulez organiser votre voyage à Guernesey, c'est possible grâce à la restauration qui vient de s'achever. Les reportages Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille, la technique Paul Percheron.